franceinter.fr.
Votre invité Léa Salamé est le porte-drapeau de l'équipe de France aux Jeux Paralympiques.
Bonjour Mickaël Jérémias.
Bonjour.
C'était Thierry Nord qui vous a passé le drapeau cette semaine. Il vous a dit quoi ?
Il m'a dit de kiffer. Si je reprends ses mots, il m'a dit de profiter. Il n'a pas de conseils à me donner, c'est ce qu'il m'a dit. C'est une aventure exceptionnelle, unique. Et il l'a même mis, je crois, au-dessus de sa première médaille d'or en termes d'émotion. Parce qu'on est plein à avoir des médailles, alors que le porte-drapeau, c'est une fois tous les 4 ans.
Et vous, c'est la première fois aussi.
Moi, c'est la première fois porte-drapeau, on l'est qu'une fois.
Ça vous oblige ?
Ça m'oblige, ça me libère aussi. Ça me libère pas mal parce que moi, c'est mes 4e et derniers Jeux Paralympiques. J'ambitionne une dernière médaille et en même temps, si je l'ai pas, c'est pas la fin du monde parce que j'aurais vécu 15 années formidables et notamment le privilège d'être le porte-drapeau.
C'est quand même incroyable le French bashing au moment des JO, là, pour ce qu'on a vécu tout le mois d'août. C'est-à-dire au début, on s'est tous lamentés, on est complètement nuls, on est à la ramasse, etc. Finalement, on bat notre record. On est vraiment un pays défaitiste, non ?
On est un peu défaitiste, on est impatient parce que ça a duré 48 heures, les deux premiers jours, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de médaille. Et en même temps, on a beaucoup d'attentes. On a une période un peu difficile. En même temps, c'était le cas il y a quelques années aussi. Et donc, on est impatient. On veut des médailles, on veut des beaux résultats, on veut des athlètes qui sont irréprochables. Ça n'a pas été le cas pendant les Jeux. Il y a eu des athlètes qui n'ont pas été irréprochables dans leur prise de position, dans
notamment
leur plainte.
Au tennis. Qu'est-ce que vous pensez de l'affaire ?
Ce que pense tout le monde. Pour le coup, je trouve ça triste. Je trouve ça même scandaleux qu'il y ait des athlètes qui participent pas au jeu avec autant d'enthousiasme que des gens qui tueraient père et mère pour y participer. Ils ont oublié d'où on venait, ce qu'était la réalité du sport, et pas que du sport paralympique, du sport olympique, des valeurs de l'olympisme, et donc y aller à reculons, c'est déjà assez triste, et en plus se plaindre quand on y est, on est à côté de la plaque, quoi. Il aurait fallu peut-être aussi que les fédérations et le CNOSF les sanctionnent beaucoup plus rapidement.
Vous avez 34 ans, Mickaël Jérémias, vous avez été victime d'un accident de ski à 18 ans qui vous a laissé en fauteuil. 6 mois après votre accident, vous découvrez le tennis en e-sport. Le tennis, vous dites que ça vous a sauvé la vie. Comment ça s'est passé ?
En fait, le tennis, c'était un accélérateur. C'est ce qui m'a permis d'être assez rapidement autonome. C'est-à-dire qu'il a fallu, que mes bras deviennent mes jambes. J'ai fait beaucoup de sport. C'est ce qui m'a rendu plus autonome, plus indépendant, ce qui me faisait sortir de mon environnement médicalisé au début. Et ensuite, ça m'a donné une identité. Avant d'être une personne handicapée, je suis devenu sportif. Et je suis sportif de haut niveau. Il s'avère que je fais du sport en situation de handicap, je fais du sport en fauteuil. Mais je suis sportif. Après, j'ai fait depuis plein d'autres choses, mais ça m'a sorti de ça. Quand on fait du sport, on crée du lien social. En plus, moi, le tennis m'a permis de voyager dans le monde entier.
Et de rencontrer plein de gens. Vous êtes même payé le luxe de battre Roger Federer.
Djokovic.
Ah bon, j'ai vu.
Non, je défie depuis maintenant 15 ans Federer. C'est deux grands champions. Là, je défie Federer parce que oui, ce serait bien aussi de le battre lui. Non, c'est que.
Et Djokovic, il a pas touché une balle.
En fait, Djokovic, il a joué en fauteuil. Il voulait essayer. C'est un mec super et qui est venu me proposer. Donc, il est venu à New York et le Spain l'année dernière. Il a joué en fauteuil. Et en fait, si la balle n'est pas parfaitement sur lui, il ne sait pas jouer. Il ne sait plus jouer au tennis. Après, évidemment, debout, c'est une autre histoire. mais voilà, c'était pour lui, avait envie de partager ça. Et il a d'ailleurs tweeté juste après un message vraiment sympathique après avoir posté une vidéo qui, quand vous pensez avoir dominé votre sujet, ces mecs-là vous font voir un peu votre vie en perspective. Il s'est rendu compte et il a voulu vraiment le vivre que la réalité de notre sport était un sport difficile, qu'on n'était pas juste, on faisait pas du sous-tennis ou du tennis juste assis. Et c'est appréciable quand des grands champions comme ça, le partagent avec nous.
Vous dites, quand t'as été victime d'un accident, c'est long, c'est dur, et pas tout le monde a ma capacité de résiliation. Et ça, c'est ce que tout le monde vous reconnaît. J'ai vu pas mal de reportages sur vous. Tout le monde loue votre mental très positif, comme dit Henri Lecomte en parlant de vous. Ce mental très positif, cette résilience, comment vous avez fait ?
En fait, moi, je pense que c'est un mélange de plusieurs choses. Il y a des choses qu'on contrôle pas, c'est l'éducation, la manière dont j'ai été formaté par mes parents, mes frères, la société. Il y a un tempérament qui s'est créé, un tempérament plutôt optimiste. Je suis quelqu'un de profondément optimiste. J'aime la vie. Je pense que c'est aussi un outil indispensable. Quoi. Le goût de la vie fait que, peu importe ce qui m'arrive, j'ai envie de le surpasser, j'ai envie de le surmonter, j'ai envie de voir que le jour d'après, ce qui sera meilleur quand ça va pas. Et puis moi, j'ai la chance d'avoir été entouré par des gens extrêmement sensibles, intelligents, parce que c'est pas évident. C'est-à-dire qu'on pense souvent à la personne accidentée, mais quand une personne qui est accidentée, c'est des dizaines de personnes qui sont accidentées. Mes parents, ils ont été aussi victimes d'accidents de la vie. Quand moi j'ai eu un accident, mes parents, mes frères, mes amis sont victimes d'accidents de la vie.
Et d'ailleurs, ils le disent, vos parents, dans un reportage que j'ai vu, ils disent au début, on comprenait rien. En fait, on savait pas, on était ignorant du monde du handicap et on savait pas comment faire.
Et pourtant, mon père est médecin, donc il connaît le monde, en tout cas, le monde du handicap, il le connaissait pas personnellement, il n'était pas confronté, mais il y a été sensibilisé dans le cadre de son travail. Et en fait, ils sont parents avant d'être médecin ou quoi que ce soit d'autre. Et donc oui, quand votre enfant, peu importe son âge, mais à 18 ans, un accident et devient paraplégique, oui, on perd tout, on contrôle plus rien. Et pour le coup, c'est pas mes parents qui ont joué le rôle de parents après mon accident, c'est mon grand frère. Mon petit frère était un peu trop jeune, mon grand frère qui avait 20 ans à ce moment-là, c'est lui qui a été le plus proche et le plus à même de m'accompagner dans cette période difficile.
Il y a le tennis, on l'entend, et il y a aussi ce que vous dites là. Et vous tenez à multiplier les conférences dans les écoles, dans les entreprises, pour, vous dites, changer le regard des gens. Qu'est-ce que vous leur dites aux gens, soit qui sont ignorants, soit qui s'en fichent, ou qui sont nous intéressés?
En fait, il y a tout, il y a des gens ignorants et des gens qui ont peur. La majorité des gens que je rencontre, en fait, ils ont peur parce que c'est l'effet miroir. Ils me regardent, alors pas moi particulièrement, mais les personnes handicapées, ils se disent, c'est tout ce que je ne veux pas devenir. En même temps, ils ont raison. Si on peut éviter de passer sa vie sur un fauteuil roulant, c'est mieux. Ou d'être amputé ou ce genre de choses. Mais la réalité, c'est que on a peur par ignorance. Et donc moi, c'est de les informer sur, pas la réalité, mais sur une réalité. Ma réalité, c'est pas la réalité de toutes les personnes handicapées. Et donc, c'est ce que je fais. Moi, je veux banaliser la différence. Donc c'est un de mes combats. Et aussi, et ça c'est le message que je transmets aux personnes handicapées, c'est de revendiquer le droit à l'indifférence. J'ai le droit, moi, d'aller au restaurant sans que ce soit un événement. J'ai le droit d'aller en boîte sans que ce soit un événement. J'ai le droit de vivre sans que ce soit un événement en soi, de vivre comme tout le monde. Et donc, c'est de diffuser auprès de tous ces gens le bon sens, la bonne attitude, la juste attitude. On parle beaucoup de partage, du vivre ensemble et tout. Alors, je suis pas fan de cette expression-là, mais on est vraiment là-dessus. On est vraiment là-dessus. Simplement, de manière vraiment banale, on peut tout à fait travailler dans une entreprise côte à côte avec quelqu'un qui est malvoyant, avec quelqu'un qui a un handicap invisible, avec quelqu'un qui est en fauteuil roulant. Faut que notre société arrive à l'accepter, que ce soit plus un événement en soi, parce qu'on peut le faire.
Et une des choses qui permettent de l'accepter, c'est aussi de diffuser ces Jeux Paralympiques à la télévision. France Télévisions promet 100 heures de diffusion. Il y a eu un immense record d'audience sur France 4 pour les Jeux de Sochi au moment des Jeux Paralympiques, ouais, qui ont vraiment boosté la chose. Et pourtant, paradoxalement, là, ça s'annonce pas très bien à Rio. Mis à part la corruption endémique du Brésil, la situation n'a jamais été aussi tendue. Les billets ont du mal à s'écouler. Vous comprenez ce qui se passe ?
Oui, je comprends ce qui se passe. Alors, juste rapidement sur France Télévisions, ça fait des années et des années. Moi, je commençais en 2004, les premiers Paralympiques à Athènes, quoi, mes premiers Paralympiques. On s'est battu contre eux. Maintenant, on se bat avec eux pour qu'ils soient pas les seuls à le faire. Il faut apprécier ce qui nous est offert. Il y aura 100 heures de direct avec des journalistes qui sont pour le coup passionnés, que j'ai eu la chance de rencontrer, puisqu'à Sochi, moi, je commentais les jeux de Sochi pour France 4. En fait, ce qui se passe à Rio, et c'est ce qui s'est passé pendant les Jeux Olympiques, bah, il y a une crise au Brésil. Et donc, pour le coup, il n'y a pas les moyens, et donc ils ont d'autres attentes qu'aller faire la fête et encourager des athlètes du monde entier.
Nickel, Jérémy, on vous regardera en tout cas. Les Jeux Paralympiques, ça commence le 7 septembre prochain. Merci à vous et belle journée.
Merci
beaucoup. Merci beaucoup, Léa Salamé.